Pendant Carthage ravageait l'Asie mineure, Cyrus subjuguait en personne toutes les nations de l'Asie supérieure sans en omettre aucune. Je les passerai la plupart sous silence, me contentant de parler de celles qui lui donnèrent le plus de peine et qui méritent le plus de trouver place dans l'histoire. Lorsque ce prince eut réduit sous sa puissance tout le continent, il songea à attaquer les Assyriens. La Syrie contient plusieurs grandes villes, mais Babylone est la plus célèbre et la plus forte. C'était là que les rois du pays faisaient leur résidence depuis la destruction de Ninive. Cette ville, située dans une grande plaine, est de forme carrée. Chacun de ses côtés a 6-20 stades de long, ce qui fait pour l'enceinte de la place 480 stades. Elle est si magnifique que nous n'en connaissons pas une qu'on puisse lui comparer. Un fossé large, profond et plein d'eau règne tout autour. On trouve ensuite un mur de 50 coudées de roi d'épaisseur sur 200 en hauteur. La coudée de roi est de 3 doigts plus grande que la moyenne. Il est à propos d'ajouter à ce que je viens de dire l'emploi qu'on fit de la terre des fossés et de quelle façon la muraille fut bâtie. À mesure qu'on creusait les fossés, on en convertissait la terre en briques. Et lorsqu'il y en eut une quantité suffisante, on les fit cuire dans des fourneaux. Ensuite, pour servir de liaison, on se servit de bitume chaud et, de 30 couches en 30 couches de briques, on mit des lits de roseaux entrelacés ensemble. On bâtit d'abord de cette manière les bords du fossé. On passa ensuite au mur qu'on construisit de même. Au haut et sur le bord de cette muraille, on éleva des tours qui n'avaient qu'une seule chambre, les unes vis-à-vis des autres, entre lesquelles on laissa autant d'espace qu'il en fallait pour faire tourner un char à 4 chevaux. Il y avait à cette muraille 100 portes d'airain massifs comme les jambages et les linteaux. À 8 journées de Babylone et la ville d'Is, située sur une petite rivière de même nom, qui se jette dans l'Euphrate. Cette rivière roule avec ses eaux une grande quantité de bitume. On en tira celui dont furent cimentés les murs de Babylone. L'Euphrate traverse cette ville par le milieu et la partage en 2 quartiers. Ce fleuve est grand, profond et rapide. Il vient de l'Arménie et se jette dans la mer Érythrée. L'une et l'autre muraille forment un coude sur le fleuve. À cet endroit commence un mur de briques cuites dont sont bordés les 2 côtés de l'Euphrate. Les maisons sont à 3 et 4 étages. Les rues sont droites et coupées par d'autres qui aboutissent au fleuve. En face de celle-ci, on a pratiqué, dans le mur construit le long du fleuve, de petites portes, pareillement d'airain, par où l'on descend sur ses bords. Il y en a autant que de rues le traversent. Le mur extérieur sert de défense. L'intérieur n'est pas moins fort, mais il est plus étroit. Le centre de chacun de ces 2 quartiers de la ville est remarquable. L'un, par le palais du roi, dont l'enceinte est grande et bien fortifiée. L'autre, par le lieu consacré à Jupiter Bélus dont les portes sont d'airain et qui subsistent encore actuellement. C'est un carré régulier qui a 100 stades en tous sens. On voit au milieu une tour massive qui a un stade tant en longueur qu'en largeur. Sur cette tour s'en élève une autre, et sur cette seconde encore une autre, et ainsi de suite. De sorte que l'on en compte jusqu'à 8. On a pratiqué en dehors des degrés qui vont en tournant et par lesquels on monte à chaque tour. Au milieu de cet escalier, on trouve une loge et des sièges où se reposent ceux qui montent. Dans la dernière tour est une grande chapelle. Dans cette chapelle, un grand lit bien garni et près de ce lit, une table d'or. On n'y voit point de statue. Personne n'y passe la nuit à moins que ce ne soit une femme du pays dont le dieu a fait choix, comme le disent les Chaldéens, qui sont les prêtres de ce dieu. Ces mêmes prêtres ajoutent que le dieu vient lui-même dans la chapelle et qu'il se repose sur le lit. Cela ne me paraît pas croyable. La même chose arrive à Thèbes, en Égypte, s'il faut en croire les Égyptiens. Car il y couche une femme dans le temple de Jupiter thébéen, et l'on dit que ces 2 femmes n'ont commerce avec aucun homme. La même chose s'observe aussi à Patar, en Lycie, lorsque le dieu honore cette ville de sa présence. Alors, on enferme la grande prêtresse la nuit dans le temple, car il ne rend point en ce lieu d'oracle en tout temps. Dans ce temple de Babylone, il y a une autre chapelle en bas où l'on voit une grande statue d'or qui représente Jupiter assis. Près de cette statue est une grande table d'or. Le trône et le marchepied sont du même métal. Le tout, au rapport des Chaldéens, vaut 800 talents d'or. On voit, hors de cette chapelle, un autel d'or, et outre cela, un autre autel, très grand, sur lequel on immole du bétail d'un achevé. Car il n'est permis de sacrifier sur l'autel d'or que des animaux encore à la mamelle. Les Chaldéens brûlent aussi sur ce grand autel, tous les ans, à la fête de ce dieu, 1000 talents pesant d'encens. Il y avait encore en ce temps-là, dans l'enceinte sacrée, une statue d'or massive de 12 coudées de haut. Je ne l'ai point vue, je me contente de rapporter ce qu'en disent les Chaldéens. Darius, fils d'Hystaspe, forma le projet de l'enlever, mais il n'osa l'exécuter. Xerxès, fils de Darius, fit tuer le prêtre qui s'opposait à son entreprise et s'en empara. Telles sont les richesses de ce temple. On y voit aussi beaucoup d'autres offrandes particulières. Babylone a eu un grand nombre de rois dont je ferai mention dans mon histoire d'Assyrie. Ce sont eux qui ont environné cette ville de murailles et qui l'ont embellie par les temples qu'ils y ont élevés. Parmi ces princes, on compte deux reines. La première précéda l'autre de 5 générations. Elle s'appelait Sémiramis. Elle fit faire ces digues remarquables que retiennent l'Euphrate dans son lit et l'empêchent d'inonder les campagnes comme il le faisait auparavant. La seconde reine, nommée Nitocris, était plus prudente que la première. Parmi plusieurs ouvrages dignes de mémoire dont je vais parler, elle fit celui-ci. Ayant remarqué que les Mèdes, devenus puissants, ne pouvaient rester en repos, qu'ils s'étaient rendus maîtres de plusieurs villes et entre autres de Ninive, elle se fortifia d'avance contre eux autant qu'elle le put. Premièrement, elle fit creuser des canaux au-dessus de Babylone. Par ce moyen, l'Euphrate, qui traverse la ville par le milieu, de droit qu'il était auparavant, devint oblique et tortueux, au point qu'il passe 3 fois par Ardérica, bourgade d'Assyrie. Et encore maintenant, ceux qui se transportent de cette mer-ci à Babylone rencontrent, en descendant l'Euphrate, ce bourg 3 fois en 3 jours. Elle fit faire ensuite de chaque côté une levée digne d'admiration, tant pour sa largeur que pour sa hauteur. Bien loin au-dessus de Babylone, et à une petite distance du fleuve, elle fit creuser un lac destiné à recevoir les eaux du fleuve quand il vient de se déborder. Il avait 420 stades de tour. Quant à la profondeur, on le creusa jusqu'à ce que l'on trouva l'eau. La terre qu'on en tira servit à relever les bords de la rivière. Ce lac achevé, on en revêtit les bords de pierre. Ces 2 ouvrages, savoir l'Euphrate rendu tortueux et le lac, avaient pour but de ralentir le cours de ce fleuve en brisant son impétuosité par un grand nombre de sinuosités et d'obliger ceux qui se rendraient par eau à Babylone d'y aller en faisant plusieurs détours et de les forcer, au sortir de ces détours, à entrer dans un lac immense. Elle fit faire ses travaux dans la partie de ses états la plus exposée aux irruptions des Mèdes et du côté où ils ont moins de chemin à faire pour entrer sur ces terres afin que, n'ayant point de commerce avec les Assyriens, ils ne puissent prendre aucune connaissance de ses affaires. Ce fut ainsi que cette princesse fortifia son pays. Quand ses ouvrages furent achevés, voici ce qu'elle y ajouta. Babylone est divisée en 2 parties et l'Euphrate la traverse par le milieu. Sur les rois précédents, quand on voulait aller d'un côté de la ville à l'autre, il fallait nécessairement passer le fleuve en bateau, ce qui était, à mon avis, fort incommode. Nitocris y pourvut. Le lac qu'elle creusa pour obvier au débordement du fleuve lui permit d'ajouter à ce travail un autre ouvrage qui a éternisé sa mémoire. Elle fit tailler de grandes pierres. Et lorsqu'elles furent prêtes à être mises en œuvre et que le lac eut été creusé, elle détourna les eaux de l'Euphrate dans ce lac. Pendant qu'il se remplissait, l'ancien lit du fleuve demeura à sec. Ce fut alors qu'on en revêtit les bords de briques cuites en dedans de la ville, ainsi que les descentes qui conduisent des petites portes à la rivière. Et l'on s'y prit, comme l'on avait fait pour construire le mur. On bâtit aussi au milieu de la ville un pont avec les pierres qu'on avait tirées des carrières, et on les lia ensemble avec du fer et du plomb. Pendant le jour, on y passait sur des pièces de bois carré qu'on retirait le soir, de crainte que les habitants n'allassent de l'un et de l'autre côté du fleuve pour se voler réciproquement. Lorsqu'on y fait passer dans le lac les eaux du fleuve, on travailla au pont. Le pont achevé, on fit rentrer l'Euphrate dans son ancien lit, et ce fut alors que les Babyloniens s'aperçurent de l'utilité du lac et qu'ils reconnurent la commodité du pont. Voici la ruse qu'imagina aussi cette même reine. Elle se fit ériger un tombeau sur la terrasse d'une des portes de la ville les plus fréquentées, avec l'inscription suivante qu'on y grava par son ordre. « Si quelqu'un des rois qui me succéderont à Babylone vient à manquer d'argent, qu'il ouvre ce sépulcre et qu'il en prenne autant qu'il voudra. » Mais qu'il se garde bien de l'ouvrir par d'autres motifs, et s'il n'en a du moins un grand besoin, cette infraction lui serait funeste. Ce tombeau demeura fermé jusqu'au règne de Darius. Mais ce prince, s'indignant de ne pas faire usage de cette porte, parce qu'il n'aurait pu y passer sans avoir un corps mort sur sa tête, et de ne point se servir de l'argent qui était en dépôt, et qui semblait l'inviter à le prendre, le fit ouvrir. Mais il n'y trouva que le corps de Nitocris avec cette inscription. Si tu n'avais pas été insatiable d'argent et avide d'un gain honteux, tu n'aurais pas ouvert les tombeaux des morts. » Ce fut contre le fils de cette reine que Cyrus fit marcher ses troupes. Il était roi d'Assyrie et s'appelait Labynète, de même que son père. Le grand roi ne se met point en campagne qu'il n'ait avec lui beaucoup de vivres et de bétail qu'il tire de son pays. On porte aussi à sa suite de l'eau du Coaspe, fleuve qui passe à Suse. Le roi n'en boit pas d'autre. On la renferme dans des vases d'argent après l'avoir fait bouillir, et on la transporte à la suite de ce prince sur des chariots à quatre roues traînés par des mulets. Cyrus, marchant contre Babylone, arriva sur les bords du Gande. Ce fleuve a ses sources dans les monts Matianiens, et après avoir traversé le pays des Darnéens, il se perd dans le Tigre, qui passe le long de la ville d'Opis et se jette dans la mer Érythrée, le golfe Persique. Pendant que Cyrus essayait de traverser le Gande, quoiqu'on ne pût le faire qu'en bateau, un de ses chevaux blancs qu'on appelle sacrés, emporté par son ardeur, sauta dans l'eau. Et s'efforçant de gagner la rive opposée, la rapidité du courant l'enleva, le submergea, et le fit entièrement disparaître. Cyrus, indigné de l'insulte du fleuve, le menaça de le rendre si petit et si faible que dans la suite les femmes mêmes pourraient le traverser sans se mouiller les genoux. Ces menaces faites, il suspend l'expédition contre Babylone, partage son armée en deux corps, trace au cordeau de chaque côté de la rivière 180 canaux qui venaient y aboutir en tous sens, et les fait ensuite creuser par ses troupes. On en vint à bout parce qu'on y employa un grand nombre de travailleurs, mais cette entreprise les occupa pendant tout l'été. Cyrus, s'étant mangé du Gande, en le coupant en 360 canaux, continua sa marche vers Babylone dès que le second printemps eut commencé à paraître. Les Babyloniens ayant mis leurs troupes en campagne l'attendirent de pied ferme. Il ne parut pas plus tôt près de la ville qu'ils lui livrèrent bataille, mais ayant été vaincus, ils se renfermèrent dans leurs murailles. Comme ils le savaient depuis longtemps que ce prince ne pouvait rester tranquille et qu'il attaquait également toutes les nations, ils avaient fait un amas de provisions pour un grand nombre d'années. Aussi, le siège ne les inquiétait-il en aucune manière. Cyrus se trouvait dans un grand embarras. Il assiégeait la place depuis longtemps et n'était pas plus avancé que le premier jour. Enfin, soit que de lui-même il eût connu ce qu'il fallait faire, soit que quelqu'un, le voyant embarrassé, lui eût donné un bon conseil, voici le moyen qu'il employa. Il plaça son armée, partie à l'endroit où le fleuve entre dans Babylone, partie à l'endroit d'où il en sort, avec ordre de s'introduire dans la ville par le lit du fleuve dès qu'il serait guéable. Son armée ainsi postée, et cet ordre donné, il se rendit au lac avec ses plus mauvaises troupes. Lorsqu'il y fut arrivé, il détourna, à l'exemple de la reine de Babylone, par le canal de communication, le fleuve dans le lac, qui était un grand marais. Les eaux s'y écoulèrent, et l'ancien lit de l'Euphrate devint guéable. Cela fait, les Perses, qui avaient été placés exprès sur les bords du fleuve, entrèrent dans Babylone par le lit de la rivière dont les eaux s'étaient tellement retirées qu'ils n'en avaient guère que jusqu'au milieu des cuisses. Si les Babyloniens eussent été instruits d'avance du dessein de Cyrus, ou s'ils s'en fussent aperçus au moment de l'exécution, ils auraient fait périr l'armée entière, loin de la laisser entrer. Ils n'auraient eu qu'à fermer toutes les petites portes qui conduisaient au fleuve, et qu'à monter sur le mur dont il les bordait. Ils l'auraient prise, comme dans un filet. Mais les Perses survinrent lorsqu'ils s'y attendaient le moins. Si l'on en croit les Babyloniens, les extrémités de la ville étaient déjà au pouvoir de l'ennemi, que ceux qui demeuraient en milieu n'en avaient aucune connaissance dont elle était grande. Comme ses habitants célébraient par hasard en ce jour une fête, ils ne s'occupaient alors que de danse et de plaisir, qu'ils continuèrent jusqu'au moment où ils apprirent le malheur qui venait d'arriver. C'est ainsi que Babylone fut prise pour la première fois. Entre autres preuves que je vais rapporter de la puissance des Babyloniens, j'insiste sur celle-ci. Indépendamment des tribus ordinaires, tous les états du grand roi entretiennent sa table et nourrissent son armée. Or, de 12 mois dont l'année est composée, la Babylonie fait cette dépense pendant 4 mois, et celle des 8 autres se répartit sur le reste de l'Asie. Ce pays égale donc en richesse et en puissance le tiers de l'Asie. Le gouvernement de cette province, les Perses donnent le nom de satrapie à ces gouvernements, est le meilleur de tous. Il rapportait par jour une artabe d'argent à Tritantaïknès, fils d'Artabase, à qui le roi l'avait donnée. L'artabe est une mesure de Perse, plus grande de 3 chénis attiques que la Ménie attique. Cette province entretenait encore au roi en particulier, sans compter les chevaux de guerre, un haras de 800 étalons et de 16 000 cavales. De sorte qu'on y comptait 20 juments pour chaque étalon. On y nourrissait aussi une grande quantité de chiens indiens. 4 grands bourgs situés dans la plaine étaient chargés de les nourrir et exempts de toute autre tribu. Les pluies ne sont pas fréquentes en Assyrie. L'eau du fleuve y nourrit la racine du grain et fait croître les moissons, non point comme le Nil en se répandant dans les campagnes, mais à force de bras et par le moyen de machines propres à élever l'eau. Car la Babylonie est comme l'Égypte, entièrement coupée de canaux dont le plus grand porte des navires. Ils regardent le lever d'hiver et communiquent de l'Euphrate au Tigre sur lequel était située Ninive. De tous les pays que nous connaissons, c'est sans contredit le meilleur et le plus fertile en grains de cérès, le blé. La terre n'essaye pas du tout d'y porter des figuiers, de vignes ni d'oliviers. Mais en récompense, elle y est si propre à toutes sortes de grains qu'elle rapporte toujours 200 fois autant qu'on a semé et que, dans les années où elle se surpasse elle-même, elle rend 300 fois autant qu'elle a reçu. Les feuilles du froment et de l'orge y ont bien 4 doigts de large. Quoique je n'ignore pas à quelle hauteur y viennent les tiges de millet et de sésame, je n'en ferai point mention, persuadé que ceux qui n'ont point été dans la Babylonie ne pourraient ajouter foi à ceux que j'ai rapportés des grains de ce pays. Les Babyloniens ne se servent que de l'huile qui s'exprime du sésame. La plaine est couverte de palmiers. La plupart portent du fruit. On en mange une partie et de l'autre on tire du vin et du miel. Ils les cultivent de la même manière que nous cultivons les figuiers. On lie et on attache le fruit des palmiers que les Grecs appellent palmiers mâles aux palmiers qui portent des dattes, afin que le moucheron s'introduisant dans la date le fasse mûrir et l'empêche de tomber. Car il se forme un moucheron dans le fruit des palmiers mâles comme dans celui des figuiers sauvages. Je vais parler d'une autre merveille qui, du moins après la ville, est la plus grande de toutes celles qu'on voit en ce pays. Les bateaux dont on se sert pour se rendre à Babylone sont faits avec des pots et de forme ronde. On les fabrique dans la partie de l'Arménie qui est au-dessus de la Syrie, avec des seaux dont on forme la carène et les varangues, qu'on revêt par dehors de pots, à qui on donne la figure d'un plancher. On les arrondit comme un bouclier, sans aucune distinction de poupe ni de proue, et on en remplit le fond de paille. On les abandonne au courant de la rivière, chargés de marchandises et principalement de vin de palmier. Deux hommes debout les gouvernent chacun avec un pieu que l'un tire en dedans et l'autre en dehors. Ces bateaux ne sont point égaux. Il y en a de grands et de petits. Les plus grands portent jusqu'à 5000 talents pesants. On transporte un âne dans chaque bateau. Les plus grands en ont plusieurs. Lorsqu'on est arrivé à Babylone et qu'on a vendu les marchandises, on met aussi en vente les varangues et la paille. Ils cherchent ensuite les pots sur les ânes et retournent en Arménie en les chassant devant eux. Car le fleuve est si rapide qu'il n'est pas possible de le remonter. Et c'est par cette raison qu'ils ne font pas leurs bateaux de bois mais de pots. Ils en construisent d'autres de même manière lorsqu'ils sont de retour en Arménie avec leurs ânes. Voilà ce que j'avais à dire de leurs bateaux. Quant à leur habillement, ils portent d'abord une tunique de lin qui leur descend jusqu'aux pieds et par-dessus une autre tunique de laine. Ils s'enveloppent ensuite d'un petit manteau blanc. La chaussure, qui est à la mode de leur pays, ressemble presque à celle des Béotiens. Ils laissent croître leurs cheveux, se couvrent la tête d'une mitre et se frottent tout le corps de parfum. Ils ont chacun un cachet et un bâton travaillé à la main, au haut duquel est ou une pomme, ou une rose, ou un lys, ou un aigle, ou toute autre figure. Car il ne leur est pas permis de porter de canne ou bâton sans un ornement caractéristique. C'est ainsi qu'ils se parent. Passons maintenant à leur loi. La plus sage de toutes, à mon avis, est celle-ci. J'apprends qu'on la retrouve aussi chez les Vénètes, peuple d'Illyrie. Dans chaque bourgade, ceux qui avaient des filles numiles les amenaient tous les ans dans un endroit où s'assemblait autour d'elles une grande quantité d'hommes. Un crieur public les faisait lever et les vendait toutes l'une après l'autre. Ils commençaient d'abord par la plus belle, et après en avoir trouvé une somme considérable, ils criaient celles qui en approchaient davantage. Mais ils ne les vendaient qu'à condition que les acheteurs les épouseraient. Tous les riches babyloniens qui étaient en âge nubile, en chérissant les uns sur les autres, achetaient les plus belles. Quant aux jeunes gens du peuple, comme ils avaient moins besoin d'épouser de belles personnes que d'avoir une femme qui leur apportât une dot, ils prenaient les plus laides avec l'argent qu'on leur donnait. En effet, le crieur n'avait pas plutôt fini la vente des belles qu'il faisait lever la plus laide ou celle qui était estropiée, s'il s'en trouvait, la crier au plus bas prix, demandant qui voulait l'épouser à cette condition et l'adjuger à celui qui en faisait la promesse. Ainsi, l'argent qui provenait de la vente des belles servait à marier les laides et les estropiés. Il n'était point permis à un père de choisir un époux à sa fille, et celui qui avait acheté une fille ne pouvait l'emmener chez lui qu'il ne donnait caution de l'épouser. Lorsqu'il avait trouvé des répondants, il la conduisait à sa maison. Si l'on ne pouvait s'accorder, la loi portait qu'on rendrait l'argent. Il était aussi permis, indistinctement, à tous ceux d'un autre bourg de venir à cette vente et d'y acheter des filles. Cette loi, si sagement établie, ne subsiste plus. Ils ont depuis peu imaginé un autre moyen pour prévenir les mauvais traitements qu'on pourrait faire à leurs filles et pour empêcher qu'on ne les menât dans une autre ville. Depuis que Babylone a été prise et que, maltraités par leurs ennemis, les Babyloniens ont perdu leurs biens, il n'y a personne parmi le peuple qui, se voyant dans l'indigence, ne prostitue ses filles pour de l'argent. Après la coutume concernant les mariages, la plus sage est celle qui regarde les malades. Comme ils n'ont point de médecin, ils transportent les malades à la place publique. Chacun s'en approche et s'il a eu la même maladie ou s'il a vu quelqu'un qui l'ait eu, il aide le malade de ses conseils et l'exhorte à faire ce qu'il a fait lui-même ou ce qu'il a vu pratiquer à d'autres pour s'étirer d'une semblable maladie. Il n'est pas permis de passer auprès d'un malade sans lui demander quel est son mal. Ils mettent les morts dans du miel, mais leur deuil et leur cérémonie funèbre ressemblent beaucoup à ceux des Égyptiens. Toutes les fois qu'un Babylonien a eu commerce avec sa femme, il brûle des parfums et s'assied auprès pour se purifier. Sa femme fait la même chose d'un autre côté. Ils se lavent ensuite l'un et l'autre à la pointe du jour, car il ne leur est pas permis de toucher à aucun vase qu'il ne se soit lavé. Les Arabes observent le même usage. Les Babyloniens ont une loi bien honteuse. Toute femme née dans le pays est obligée, une fois en sa vie, de se rendre au temple de Vénus pour s'y livrer à un étranger. Plusieurs d'entre elles, dédaignant de se voir confondues avec les autres, à cause de l'orgueil que leur inspire leur richesse, se font porter devant le temple dans des chars couverts. Là, elles se tiennent assises, ayant derrière elles un grand nombre de domestiques qui les ont accompagnées. Mais la plupart des autres s'asseyent dans la pièce de terre dépendante du temple de Vénus, avec une couronne de ficelle autour de la tête. Les unes arrivent, les autres se retirent. On voit en tout sens des allées séparées par des cordages tendus. Les étrangers se promènent dans ces allées et choisissent les femmes qui leur plaisent le plus. Quand une femme a pris place en ce lieu, elle ne peut retourner chez elle que quelque étranger lui ait jeté de l'argent sur les genoux et n'ait eu commerce avec elle hors du lieu sacré. Il faut que l'étranger, en lui jetant de l'argent, lui dise « J'invoque la déesse Milita ». Or, les Assyriens donnent à Vénus le nom de Milita. Quelque modique que soit la somme, il n'éprouvera point de refus, la loi le défend, car cet argent devient sacré. Elle suit le premier qui lui jette de l'argent, et il ne lui est pas permis de repousser personne. Enfin, quand elle s'est acquittée de ce qu'elle devait à la déesse en s'abandonnant à un étranger, elle retourne chez elle. Après cela, quelque somme qu'on lui donne, il n'est pas possible de la séduire. Celles qui ont en partage une taille élégante et de la beauté ne font pas un long séjour dans le temple. Mais les laides y restent davantage parce qu'elles ne peuvent satisfaire à la loi. Il y en a même qui y demeurent 3 ou 4 ans. Une coutume à peu près semblable s'observe en quelque endroit de l'île de Cypre. Telles sont les lois et les coutumes des Babyloniens. Il y a parmi eux 3 tribus qui ne vivent que du poisson. Quand ils les ont pêchés, ils les font sécher au soleil, les broient dans un mortier et les passent ensuite à travers un linge. Ceux qui en veulent manger en font des gâteaux ou les font cuire comme du pain. Lorsque Cyrus a subjugué cette nation, il lui prit envie de réduire les massagètes sous sa puissance. On dit que ces peuples forment une nation considérable et qu'ils sont braves et courageux. Leur pays est à l'est, au-delà de l'Arax, vis-à-vis des Aïcédons. Il en est qui prétendent qu'ils sont aussi scythes de nation. L'Arax, le Volga selon quelques-uns, est plus grand que l'Ister, le Danube. Selon d'autres, il est plus petit. On dit qu'il y a dans ce fleuve beaucoup d'îles dont la grandeur rapproche de celle de Lesbos. Que les peuples qui les habitent se nourrissent l'été de diverses sortes de racines et qu'ils réservent pour l'hiver les fruits mûrs qu'ils trouvent aux arbres. On dit aussi qu'ils ont découvert un arbre dont ils jettent le fruit dans un feu autour duquel ils s'assemblent par troupes. Qu'ils en aspirent par la vapeur par le nez, que cette vapeur les enivre comme le vin enivre les Grecs. Que plus ils jettent de ce fruit dans le feu, plus ils s'enivrent jusqu'à ce qu'enfin ils se lèvent et se mettent tous à chanter et à danser. Quant à l'Arax, il vient du pays des Mathianiens, d'où coulent aussi les Jindes, que Cyrus coupa en 360 canaux. Il a 40 embouchures qui, si l'on en excepte une, se jettent toutes dans des lieux marécageux et pleins de fange, où l'on prétend qu'habitent des hommes qui vivent de poissons crus et sont dans l'usage de s'habiller de peau de veau marin. Cette bouche unique dont je viens de parler se rend dans la mer Caspienne par un canal propre et net. Cette mer est une mer par elle-même et n'a aucune communication avec l'autre. Car toute la mer où naviguent les Grecs, celle qui est au-delà des colonnes d'Hercule, qu'on appelle mer Atlantide, et la mer Érythrée ne font ensemble qu'une même mer. La mer Caspienne est une mer par elle-même et bien différente de l'autre. Elle a autant de longueur qu'un vaisseau qui va à la rame peut faire le chemin en 15 jours, et, dans sa plus grande largeur, autant qu'il en peut faire en 8. Le Caucase borne cette mer à l'Occident. C'est la plus grande de toutes les montagnes, tant par son étendue que par sa hauteur. Elle est habitée par plusieurs nations différentes, dont la plupart ne vivent que de fruits sauvages. On assure que ces peuples ont chez eux une sorte d'arbre dont les feuilles, broyées et mêlées avec de l'eau, leur fournissent une couleur avec laquelle ils peignent sur leurs habits des figures d'animaux. L'eau n'efface point ces figures, et comme si elles avaient été tissues, elles ne sucent qu'avec l'étoffe. On assure aussi que ces peuples voient publiquement leurs femmes comme les bêtes. La mer Caspienne est donc bornée à l'ouest par le Caucase et à l'est par une plaine immense et à perte de vue. Les Massagètes, à qui Cyrus voulait faire la guerre, occupent la plus grande partie de cette plaine spacieuse. Plusieurs considérations importantes engageaient ce prince dans cette guerre et l'y animaient. La première était sa naissance, qui lui paraissait avoir quelque chose de plus qu'humain. La seconde, le bonheur qu'il avait toujours accompagné dans ses guerres. Toutes les nations, en effet, contre qui Cyrus tourna ses hommes, furent subjuguées. Aucune ne put l'éviter. Thomyris, veuve du dernier roi, régnait alors sur la Massagète. Cyrus lui envoya des ambassadeurs sous prétexte de la rechercher en mariage. Mais cette princesse, comprenant qu'il était plus épris de la couronne des Massagètes que de sa personne, lui interdit l'entrée de ses états. Cyrus, voyant que ses artifices n'avaient point réussi, marcha ouvertement contre les Massagètes et s'avança jusqu'à l'Arax. Il jeta un pont sur ce fleuve pour en faciliter le passage et fit élever des tours sur des bateaux destinés à passer ses troupes. Pendant qu'il était occupé de ses travaux, Thomyris lui envoya un ambassadeur qu'elle chargea de lui parler ainsi. « Roi des Mèdes, cesse de hâter une entreprise dont tu ignores si l'événement tournera à ton avantage. Et, content de régner sur tes propres sujets, regarde-nous tranquillement régner sur les nôtres. Si tu ne veux pas suivre mes conseils, si tu préfères toute autre partie au repos, enfin, si tu as tant d'envie d'éprouver tes forces contre celles des Massagètes, discontinue le pont que tu as commencé. » Nous nous retirerons à 3 journées de ce fleuve pour te donner le temps de passer dans notre pays. Ou, si tu aimes mieux nous recevoir dans le tien, fais comme nous. » Cyrus convoqua là-dessus les principaux d'entre les Perses. Et ayant mis l'affaire en délibération, il voulut avoir leur avis. Ils s'accordèrent tous à recevoir Thomyris et son armée sur leur terre. Crésus, qui était présent aux délibérations, désapprouva cet avis et en proposa un tout opposé. « Seigneur, dit-il à Cyrus, je vous ai toujours assuré que, Jupiter m'ayant livré en votre puissance, je ne cesserai de faire tous mes efforts pour tâcher de détourner de dessus votre tête les malheurs qui vous menacent. Mes adversités me tiennent lieu d'instruction. Si vous vous croyez immortel, si vous pensez commander une armée d'immortels, peu vous importe ma manière de penser. Mais si vous reconnaissez que vous êtes aussi un homme et que vous ne commandez qu'à des hommes comme vous, considérez d'abord les vicissitudes humaines. Figurez-vous une roue qui tourne sans cesse et ne vous permet pas d'être toujours heureux. Pour moi, sur l'affaire qui vient d'être proposée, je suis d'un avis totalement contraire à celui de votre conseil. Si nous recevons l'ennemi dans notre pays et qu'il nous batte, n'est-il pas à craindre que vous perdiez votre empire? Car si les Massagètes ont l'avantage, il est certain qu'au lieu de retourner en arrière, ils attaqueront vos provinces. Je veux que vous remportiez la victoire. Sera-t-elle jamais aussi complète que si, après avoir défait vos ennemis sur leur propre territoire, vous n'aviez plus qu'à les poursuivre? Je poserai toujours à ceux qui ne sont pas de votre avis que, si vous obtenez la victoire, rien ne pourra plus vous empêcher de pénétrer sur le champ jusqu'au centre des états de Thomyris. Indépendamment de ces motifs, ne serait-ce pas une chose aussi insupportable qu'honteuse pour Cyrus, fils de Cambyse, de reculer devant une femme? J'opine donc que vos troupes passent le fleuve, que vous avanciez à mesure que l'ennemi s'éloignera, et qu'ensuite vous cherchiez tous les moyens de le vaincre. Je sais que les Massagètes ne connaissent pas les délices des Perses et qu'ils manquent des commodités de la vie. Qu'on égorge donc une grande quantité de bétail, qu'on la prête et qu'on le serve dans le camp. On y joindra du vin pur en abondance dans les cratères et toutes sortes de mets. Ces préparatifs achevés, nous laisserons au camp nos plus mauvaises troupes et nous nous retirerons vers le fleuve avec le reste de l'armée. Les Massagètes, si je ne me trompe, voyant tant d'abondance, y courront. Et c'est alors que nous trouverons l'occasion de nous signaler. » De ces deux avis opposés, Cyrus rejeta le premier et préféra celui de Crésus. Il fit dire en conséquence à Thomyris de se retirer parce qu'il avait dessein de traverser la rivière. La reine se retira, suivant la convention. Cyrus déclara son fils Cambyse pour son successeur, et, lui ayant remis Crésus entre les mains, il lui recommanda d'honorer ce prince et de le combler de bienfaits, quand même cette expédition ne réussirait pas. Ses ordres donnés, il les renvoya en Perse et traversa le fleuve avec son armée. Cyrus, ayant passé l'Arax et la nuit étant venue, Il s'endormit dans le pays des Massagètes, et, pendant son sommeil, il eut cette vision. Il lui sembla voir en songe l'aîné des fils d'Istaps, ayant deux ailes aux épaules, dont l'une couvrait l'Asie de son ombre et l'autre couvrait l'Europe. Cet aîné des enfants d'Istaps, nommé Darius, avait alors encore 20 ans. Son père, fils d'Arsam et de la race des Achéménides, l'avait laissé en Perse parce qu'il n'était pas encore en âge de porter les armes. Cyrus, ayant à son réveil réfléchi sur cette vision, et la croyant d'une très grande importance, il demanda Istaspe, le prit en particulier et lui dit « Istaspe, votre fils est convaincu d'avoir conspiré contre moi et contre mon royaume. Je vais vous apprendre comment je le sais, à n'en pouvoir douter. Les dieux prennent soin de moi et me découvrent aussi que l'on m'a rêvé. La nuit dernière, pendant que je dormais, j'ai vu l'aîné de vos enfants avec des ailes aux épaules, dont l'une couvrait de son ombre l'Asie et l'autre l'Europe. Je ne puis douter après cela qu'il n'ait formé quelque trame contre moi. Partez donc promptement pour la Perse et ne manquez pas, à mon retour, après la conquête de ce pays-ci, de me représenter votre fils afin que je l'examine. » Ainsi parla Cyrus, persuadé que Darius conspirait contre lui. Mais le dieu lui présageait par ce songe qu'il devait mourir dans le pays des Massagètes et que sa couronne passerait sur la tête de Darius. Istaspe répondit « Seigneur, au dieu ne plaise qu'il se trouve parmi les Perses, un homme qui veuille attenter à vos jours. S'il s'en trouvait quelqu'un, qu'ils périssent au plus tôt. D'esclaves qu'ils étaient, vous en avez fait des hommes libres, et au lieu de recevoir les ordres d'un maître, ils commandent à toutes les nations. Au reste, Seigneur, si quelque vision vous a fait connaître que mon fils conspire contre votre personne, je vous le livre moi-même pour le traiter comme il vous plaira. » Istaspe traversa l'Arax après cette réponse et retourna en Perse pour s'assurer de Darius, son fils, et le représenter à Cyrus. Cyrus, s'étant avancé à une journée de l'Arax, laissa dans son camp, suivant le conseil de Crésus, ses plus mauvaises troupes, et retourna vers le fleuve avec ses meilleurs. Les Massagètes vinrent attaquer, avec la troisième partie de leurs forces, les troupes que Cyrus avait laissées à la garde du camp, et les passèrent au fil de l'épée après quelques résistances. Voyant ensuite tout prêt pour le repas, ils se mirent à table. Et après avoir mangé et bu avec excès, ils s'endormirent. Mais les Perses survinrent, en tuèrent un grand nombre et firent encore plus de prisonniers, parmi lesquels se trouva Spargapizès, leur général, fils de la reine Thomyris. Cette princesse, ayant appris le malheur arrivé à ses troupes et à son fils, envoya un héros à Cyrus. « Prince altéré le sang, lui dit-elle par la bouche du héros, que ce succès ne t'enfle point. Tu ne le dois qu'au jus de la vigne, qu'à cette liqueur qui vous rend insensé et ne descend dans vos corps que pour faire remonter sur vos lèvres des paroles insolentes. Tu as remporté la victoire sur mon fils, non dans une bataille et par tes propres forces, mais par l'appât de ce poison séducteur. Écoute, et suis un bon conseil. Rends-moi mon fils, et après avoir défait le tiers de mon armée, je veux bien encore que tu te retires impunément de mes états. Sinon, j'en jure par le soleil, le souverain maître des Massagètes, oui, je t'assouvirai de sang, quelque altéré que tu en sois. » Cyrus n'ôta aucun compte de ce discours. Quant à Spargapizès, étant revenu de son ivresse et apprenant le fâcheux état où il se trouvait, il pria Cyrus de lui faire ôter ses chaînes. Il ne se vit pas plus tôt en liberté qu'il se tua. Telle fut la triste fin de ce jeune prince. Thomyris, voyant que Cyrus n'était pas disposé à suivre son conseil, rassembla toutes ses forces et lui livra bataille. Ce combat fut, je crois, le plus furieux qui se soit jamais donné entre les peuples barbares. Voici, autant que je l'ai pu savoir, comment les choses se passèrent. Les deux armées étant à quelque distance l'une de l'autre, on se tira d'abord une multitude de flèches. Les flèches épuisées, on fondit les uns sur les autres à coups de lance et l'on se mêla l'épée à la main. On combattit longtemps de pied ferme, avec un avantage égal et sans reculer. Enfin, la victoire se déclara pour les Massagètes. La plus grande partie de l'armée des Perses périt en cet endroit, et Cyrus lui-même fut tué dans le combat après un règne de 29 ans accompli. Thomyris, ayant fait chercher ce prince parmi les morts, maltraita son cadavre et lui fit plonger la tête dans une outre pleine de sang humain. « Quoique vivante et victorieuse, dit-elle, tu m'as perdue en faisant périr mon fils qui s'est laissé prendre à tes pièges. Mais je t'assouvirai de sang comme je t'en ai menacé. » On raconte diversement la mort de Cyrus. Pour moi, je me suis borné à ce qui m'a paru le plus vraisemblable. Les Massagètes s'habillent comme les Scythes, et leur manière de vivre est la même. Ils combattent à pied et à cheval, et y réussissent également. Ils sont gens de trait et bon piqué, et portent des sagars, suivant l'usage du pays. Ils emploient à toutes sortes d'usages l'or et le cuivre. Ils se servent de cuivre pour les piques, les pointes des flèches et les sagars, et réservent l'or pour orner les casques, les baudriers et les larges ceintures qu'ils portent sous les aisselles. Les plastrons dont est garni le poitrail de leurs chevaux sont aussi de cuivre. Quant aux brides, aux mors et aux bossettes, ils les embellissent avec de l'or. Le fer et l'argent ne sont point en usage parmi eux, et on n'en trouve point dans leur pays. Mais l'or et le cuivre y sont abondants. Passons à leurs usages. Ils épousent chacun une femme, mais elles sont communes entre eux. C'est chez les massagètes que s'observe cette coutume, et non chez les scythes, comme le prétendent les Grecs. Lorsqu'un massagète devient amoureux d'une femme, il suspend son carquois à son chariot, et en jouit sans honte et sans crainte. Ils ne prescrivent point de bornes à la vie, mais lorsqu'un homme est cassé de vieillesse, ses parents s'assemblent et l'immolent avec du bétail. Ils en font cuire la chair et s'en régalent. Ce genre de mort passe chez ces peuples pour le plus heureux. Ils ne mangent point celui qui est mort de maladie, mais ils l'enterrent et regardent comme un malheur de ce qui n'a pas été immolé. Ils ne se morcent point la terre et vivent de leurs troupeaux et des poissons que l'Arax leur fournit en abondance. Le lait est leur boisson ordinaire. De tous les dieux, ils n'adorent que le soleil. Ils lui sacrifient des chevaux, parce qu'ils croient juste d'immoler au plus vite des dieux, le plus vite des animaux.